Chi-Chang retourna dans sa province. Au bord d'une rivière, il trouva un galet parfaitement poli, orné d'un lichen si petit qu'on l'apercevait à peine. Il le plaça près de la fenêtre de sa chambre, alla s'asseoir à l'autre bout de la pièce, et jour après jour, s'exerça à regarder. Deux semaines plus tard, il pouvait voir distinctement le lichen. Bientôt, celui-ci commença à lui paraître plus gros. Au bout de 3 mois, Chi-Chang le voyait comme s'il avait eu la taille d'une fleur. Il en connaissait le moindre détail. Aux membres de sa famille, il parlait avec admiration de l'étonnante complexité des feuilles de lichen. Les saisons passèrent. C'est à peine si Chi-Chang y prit garde. Il ne quittait plus sa chambre que rarement. Chaque jour, sa femme nettoyait le galet pour qu'aucune poussière ne s'y déposât et ne vînt trembler sa contemplation. À la fin de la 3e année, le lichen lui parut avoir la taille d'un arbre. Pour la première fois, Chi-Chang le quitta des yeux et regarda la pierre. Elle avait maintenant les dimensions d'un bloc énorme. Il se précipita hors de chez lui. Les chevaux lui semblèrent gros comme des montagnes, les cochons comme des collines, et les poulets ressemblaient à des tours de château. Chi-Chang retourna à l'école d'escalade où jadis il s'entraînait et retrouva une dalle rocheuse lisse que jamais personne n'avait gravie. Les petites aspérités qui pourtant s'y trouvaient prirent ce jour-là pour Chi-Chang la taille de grosses prises. Il escalada facilement la dalle. Sans plus attendre, il retourna chez Weifei. Cette fois, le maître impressionné admit que son élève avait réussi. Cela faisait 5 ans que Chi-Chang avait entrepris de s'initier au véritable art de l'escalade. Il sentait que tous les exploits lui étaient désormais possibles. Il décida de se soumettre à une série d'épreuves. Il commença par franchir avec facilité quelques-uns des passages dont Weifei avait fait sa spécialité. Puis il les franchit à nouveau en portant un sac empli de pierres et assez lourd pour le déséquilibrer au sol. Sur sa tête, il posa une tasse pleine d'eau. Pas une seule goutte ne se répandit. Une semaine plus tard, il choisit une paroi en surplomb si délitée qu'elle menaçait de s'écrouler. Il se mit à la gravir avec un enchaînement de gestes sûrs et rapides et tels que chaque pierre écartée de son équilibre par un mouvement s'y trouvait aussitôt ramenée par le mouvement suivant. À la fin, Chi-Chang atteignit le haut de la paroi sans qu'un seul bloc ne fût tombé. Weifei, qui avait assisté à cet exploit, ne put s'empêcher d'applaudir. À partir de ce jour, Chi-Chang comprit qu'il n'avait plus rien à apprendre de son maître. Il pouvait retourner dans son village. Personne ne l'égalerait. Il restait pourtant insatisfait. Un dernier obstacle subsistait. Weifei lui-même. Avec amertume, Chi-Chang réalisa qu'il ne pouvait se prétendre le meilleur grimpeur du monde. Il était l'égal de son maître, non son supérieur. Un jour concordé, il gravissait un long dièdre. Chi Chong fit un relais sur une terrasse encombrée de blocs. Plus bas, Wei Fei s'était engagé dans la longueur de corde. Chi Chong n'hésita pas et ploussa un bloc dans le vide. Mais le vieux maître avait depuis longtemps pénétré l'esprit de son élève. Celui-ci avait, sans y faire attention, relâché un peu la surage. Wei Fei comprit ce qui se passait et au même instant il se pendit à la corde, évita le bloc par un grand pendule à l'extérieur du dièdre, puis revint à sa position de départ. Instinctivement, pour ne pas être entraîné par le poids de Wei Fei, Chi Chong avait bloqué la corde. Il lança d'autres blocs, mais son compagnon les évitait avec adresse. Il choisit alors une grande lame rocheuse qui coupa la corde. Wei Fei se retrouva sans assurage et à la merci de son adversaire. « Cette fois, j'ai gagné !» murmura Chi Chong avant de pousser un dernier bloc. Mais Wei Fei, à l'instant où il allait être précipité dans le vide, bondit sur l'une des faces lisses du dièdre. En même temps, d'une main, il repoussa le bloc. Celui-ci, dévié de sa trajectoire, vint éclater sur le rocher et y creusa une minuscule prise. Wei Fei s'y laissa tomber. Avant même que Chi Chong ait réalisé ce qui se passait, le maître avait rejoint le fond du dièdre. Comprenant qu'il ne réussirait pas, Chi Chong se sentit envahi par le remords. De son côté, Wei Fei fut tellement satisfait d'avoir aussi brillamment montré sa virtuosité à celui qui avait été son élève qu'il n'éprouva aucune colère à l'endroit de celui qui avait voulu le tuer. Les deux hommes gagnèrent sans corde le sommet et se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Cependant, Wei Fei réalisa que sa vie était désormais menacée. Le seul moyen d'écarter ce danger était de détourner l'esprit de Chi Chong vers d'autres préoccupations. « Mon ami, lui dit-il, je t'ai transmis toutes mes connaissances. Mais ni toi ni moi ne possédons l'ultime savoir. Si tu veux en connaître plus, il te faut franchir le col de Tarsing et monter au sommet de la montagne Ho. Tu trouveras là le vieux maître Kang Ying qui n'a jamais eu et n'aura jamais d'égal en notre art. Comparé à la sienne, notre adresse est celle d'un enfant. Lui seul peut apprendre quelque chose.